Ondes Femmes, Radio Zone 93.8 MHz. Dans notre émission Cause Toujours, tu m'intéresses, ce soir, la situation au Chili. Nous avons rencontré Isabelle Mermineau de passage à Genève. Elle a passé ces derniers sept mois au Chili et se prépare à y retourner. Son dernier séjour, elle a passé avec les familles des prisonniers politiques et des disparus et a même pu entrer en contact direct avec les prisonniers en leur rendant visite en prison. Pour témoigner de la situation des prisonniers politiques au Chili, elle a fait un montage audiovisuel qu'elle va présenter à Genève et à Lausanne. Nous lui avons tout d'abord demandé si on pouvait attendre d'Alwin, successeur élu de Pinochet, un changement dans la situation politique et économique au Chili.
Alors moi, je pense, chacun a un peu sa propre opinion. Je dirais que non, hein. Pour moi, j'ai l'impression, en fait, que Alwin, d'abord, il est un démocrate chrétien avec sa position au niveau de l'économie, au niveau de ce qu'a été la dictature. Je crois important de dire que, d'abord, Alwin, il a été quelqu'un qui a soutenu la préparation du coup d'État, et ensuite qui a applaudi le coup d'État, et qui est allé saluer Pinochet le lendemain pour le féliciter du coup d'État. Alors bon, c'est déjà une prise de position, et il a, pendant plusieurs années, il a quand même soutenu la dictature, et ensuite il s'est mis dans l'opposition. Le Parti démocrate chrétien s'est mis dans l'opposition. Je crois que ça, c'est bon de le savoir. C'est-à-dire que, au niveau des prisonniers politiques, au niveau des détenus disparus, au niveau des assassinats politiques, des personnes qui ont été assassinées pour des raisons politiques, ces personnes-là, il ne va pas avoir une grande envie de faire justice. Et au niveau des changements économiques, il n'a pas l'intention de faire des grands changements économiques. Des petites lois sociales, des petits changements, mais... Il y a quand même 60% de pauvres, 40% d'extrême pauvreté, mais ils ne proposent pas de grandes réformes pour résoudre le problème. Il y a 1 million de sans-logis. Pinochet a laissé 380 millions de dollars de dettes au nouveau gouvernement d'Alwin. Donc ça ne laisse pas une possibilité de proposer un changement excessif, en fait.
Alors justement, à propos des prisonniers politiques, hein, je sais donc que tu as passé ces derniers 7 mois au Chili et que c'est avant tout dans le milieu des familles des prisonniers politiques, même au niveau des prisonniers politiques eux-mêmes, tu es allé leur rendre visite en prison. Quelle est leur situation? Combien y en a-t-il? Sont-ils encore donc tous des prisonniers politiques de l'époque de Pinochet?
Ce sont des prisonniers politiques de la dictature, ça je crois que c'est important de le dire. Et ce sont des personnes qui sont... Donc il y en a qui sont sortis au mois de mars, il y en avait deux qui sont sortis qui avaient 12 ans d'emprisonnement. C'est excessif en fait. Là il y a des prisonniers qui ont entre 5 ans, 7 ans, 9 ans d'emprisonnement, quoi, c'est très variable. Et ils ont tous été arrêtés, ils ont tous été détenus, tous torturés entre 3 jours à 3 semaines. Tous, ils ont été quasiment incommunicados, c'est-à-dire qu'ils ont été mis au secret, parfois 3 semaines, c'est pas plus. Et ensuite, ils sont passés en tant que prisonniers politiques.
Il y a eu des procès.
Des procès qui ont été la majorité par la justice militaire. C'est-à-dire, on peut connaître la partialité des militaires. Certains par les civils, mais les civils sont tout aussi, la justice civile est tout aussi corrompue que les militaires. Et là, il y en a certains qui ont 5 ans, 7 ans, 9 ans d'emprisonnement et qui ont des procès qui sont toujours pas terminés, qui sont sous enquête. Moi, je me pose des questions, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette justice? Certains ont des peines. Je regardais un peu la liste des prisonniers politiques. Il y en avait qui avaient une sentence de peine de mort, qui avaient 81 années d'emprisonnement, de demande d'emprisonnement, plus 20 années d'emprisonnement. Ça, c'est par exemple certains exemples, certaines possibilités qu'il y en a. Il y en a qui ont 2 sentences de peine de mort, plus peine à perpétuité, quoi. Je veux dire, c'est aberrant. Actuellement, il y a, mi-mai, il y avait, les derniers chiffres, il y avait 302 prisonniers politiques. À peu près la troisième semaine de mai, je sais qu'il y avait, à la Casa de Santo Domingo, c'est-à-dire la prison des femmes à Santiago, il restait 17 prisonnières et le 8 mars, il y en avait 29. Donc il y a certains prisonniers qui qui commence à sortir, mais c'est pas excessif, quoi. Je veux dire, autour des 300 prisonniers politiques ou 280, je crois qu'il y en a maintenant, c'est beaucoup pour un gouvernement qui se dit démocratique et qui n'a pas fait le geste de libérer tous les prisonniers politiques, qui sont la raison, en fait, pour lesquelles il y a un gouvernement qui se dit démocratique au pouvoir actuellement. Ouais.
C'est justement, les familles des prisonniers politiques ont-elles la possibilité d'aller les voir? Est-ce qu'ils s'organisent, les familles? Est-ce qu'elles font des manifestations pour libérer les prisonniers politiques? Toutes les actions autour des prisonniers politiques, c'est un point fort, disons, de l'opposition à la dictature?
Disons, les manifestations, elles ont existé dès le début de la dictature, quoi. Des familles se sont organisées. Les familles de détenus disparus, les familles de prisonniers politiques. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il doit y avoir une lassitude. Il y a aussi, peut-être il y en a certains qui espèrent qu'il va y avoir un changement d'une autre façon, mais il y a un peu, c'est vrai, une démobilisation au Chili. La même chose que les Chiliens qui sont en exil et qui se démobilisent, sans se rendre compte qu'actuellement, il y a toujours des prisonniers politiques au Chili. Les manifestations, elles se sont faites sous la dictature où la répression était systématique. Là, la répression, les manifestations, elles existent toujours. Elles sont moins systématiquement réprimées. Mais comme Pinochet reste commandant-chef des forces armées, c'est-à-dire de la navale, de l'armée de terre, de l'armée de l'air et des carabiniers.
La justice militaire manque aussi.
Oui, là, il a... Il semblerait que les prisonniers ne vont plus être jugés par la justice militaire, mais ils restent au pouvoir sur tout ça, quoi. Ils gardent les mains sur la CNI. La CNI, c'est la police secrète de Pinochet, qui a été dissoute. Mais toutes les institutions, tous les centres de torture de la CNI sont passés aux mains de l'armée. Qui est commandant-chef des forces armées? Pinochet, quoi. Je veux dire, c'est là l'aberration. Je crois qu'il faut voir tous les dessous de table, en fait, qui ont été faits. Et les manifestations, je me souviens d'une manifestation, en fait, moi, qui m'a beaucoup touchée. C'était avant Noël. Donc, il y avait eu déjà le résultat des élections. C'est-à-dire qu'on savait que Aylwin était président de la République chilienne. Allait passer président de la République chilienne. Il allait avoir l'investiture au mois de mars, le 11 mars de cette année. Et il y a eu une manifestation des enfants de prisonniers politiques. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce qu'il y avait des petits bouts de chou, comme on dit. Vraiment, des petits enfants. Il y avait des bébés, ces enfants qui ont été conçus dans la prison. Bon, je pourrais en parler tout à l'heure. Il y avait des bébés, il y avait des tout petits enfants, il y avait des enfants un peu plus grands, des adolescents. Et qui étaient avec des pancartes, petit papa, je te veux libre. Petit papa, je te veux avec moi pour Noël, quoi, papito comme on dit, en fait, hein. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis en fait, bon, ben ils sont partis à la Plaza de Armas. Ils avaient une toute petite chanson qui était très facile à apprendre, comme c'était avant Noël, petit Père Noël, Père Noël, j'aimerais mon papa ou ma maman avec moi à Noël. Et puis ensuite, ils ont marché à la Plaza de Armas et puis ils sont arrivés. Là, il y a des Pères Noël en plein été, donc habillés comme ici, en rouge, la barbe, le traîneau. Ils étouffent sous 30 degrés de chaleur. Hein. Mais ils sont arrivés puis ils ont lu une lettre demandant non pas l'appel mécanique ou le robot X ou Y, mais demandant en fait que leurs parents soient en liberté. À ce moment-là, sont arrivées les forces spéciales, c'est-à-dire le casque, le... Comment on appelle ça?
Le bouclier.
Et puis les bottes, vraiment quoi, l'appareil répressif en eux-mêmes. Les enfants qui ont soit été torturés, soit qui ont été tabassés, ou je veux dire qui ont vécu la répression, hein, quasiment tous... Les ont vus, ont paniqué, ont crié, ont commencé à pleurer, se sont enfuis dans tous les sens. Bon, et moi, ce que j'aimerais dénoncer, en fait, c'est qu'il y a eu au moins une mère qui a dit « on a perdu un enfant ». Il y a eu un des carabiniers, un des forces spéciales qui a répondu « mais j'espère que vous les perdrez tous ». Alors bon, moi, quand j'entends ça, c'est vrai que...
Mais toi, est-ce que tu as pu donc rendre visite aux prisonniers? Donc, je sais que c'est ton dernier voyage, là, tu t'es avant tout, disons, t'as réussi, disons, à entrer en contact avec les prisonniers politiques eux-mêmes.
Tout à fait.
Comment t'as fait ça?
Tout à fait. Donc, Les visites qu'ont les prisonniers politiques, c'est deux, en tout cas à Santiago, c'est deux fois par semaine, 3 heures. Donc 6 heures en tout, pour voir leurs enfants, pour voir leurs compagnes, pour voir leurs compagnons, pour voir leurs parents, pour voir les amis en fait. Et avant, c'était limité. Il y a eu un moment dans les années de la dictature où les prisonniers avaient droit à 10 visiteurs qui devaient être inscrits sur la liste. Et puis, dans une visite, il y avait les prisonniers qui avaient 3 personnes et on leur disait, quoi, ils pensaient qu'il y en avait d'autres. Et puis, quand les personnes venaient les voir, on leur disait, mais il y a déjà une liste de 10 personnes, ce qui n'était pas vrai. Une façon de manipuler aussi, une façon de réprimer quand même. Et là, les derniers temps, en fait, quand il y a eu après la passation de pouvoir, donc le 11 mars de cette année, il y a eu une rumeur qui a couru en disant que les gringos, les étrangers, pouvaient rentrer à la prison. Moi, je suis... donc, je me suis dépêchée. J'étais déjà rentrée une fois en 86. Hein, et je suis rentrée. C'est vrai que j'ai pu passer... Il y a eu un moment à la carcel publica, à la prison des hommes, à la fin, ils ont commencé à poser des problèmes, qu'il fallait de nouveau une autorisation, comme il y avait, comme les années précédentes, qui était difficile à obtenir, à vrai dire. Mais il y a toujours eu des étrangers qui ont pu rentrer, mais avec difficulté. Et là, c'est vrai qu'il y a eu nombre de personnes qui sont rentrées, et entre autres moi. Et là, j'ai eu le contact, donc quand on rentre à la, par exemple, à la prison des hommes, on rentre dans une espèce de, je dirais, couloir élargi, couloir grande salle en fait qui et où il y a des tas de bancs que les prisonniers ont confectionnés eux-mêmes et sont les uns à côté des autres et tout le monde comme ça dans cette immense salle. Ça c'est le premier lieu. Et le deuxième lieu, c'est ce qu'on appelle el patio en fait, c'est cette espèce de cour intérieure et là aussi des bancs et les familles, les amis qui sont assis avec le prisonnier. Et dans le patio, ce que j'aimerais dire, parce que je crois que c'est important, il y a eu, peut-être depuis 2 ans, je sais pas, ils ont installé pour se protéger du soleil, d'abord, ensuite du vent, ils ont mis une couverture. Ensuite, ils ont mis une deuxième, ensuite une troisième, une quatrième, et puis ils ont fait un toit. En fait, ils ont fait des espèces de petites tentes, ce qui a permis de concevoir des enfants. Il y a eu à peu près 12 enfants qui ont été conçus dans la prison. Alors, 12 bébés comme ça qui sont...
Et les prisonniers politiques, ils sont donc séparés des prisonniers de droit commun?
Tout à fait. Ils sont par galerie et ils sont...
Hommes et femmes ensemble?
Non. Par exemple, à Santiago, il y a la Casa de Santo Domingo qui est la prison des femmes, en fait. Et il y a une autre prison des hommes, c'est le pénitencier. En fait, à Santiago, il y a 2 prisons. Il y a d'autres prisons, il y a d'autres prisonniers politiques dans le reste du Chili. Hein. À Valparaiso, à Antofagasta, à Temuco, etc. Hein. Voilà.
Donc ce que tu nous fais entendre ici, c'est qu'en fait, les prisonniers politiques à l'intérieur de la prison sont très bien organisés. Quelles sont leurs activités, en fait?
En fait, ils ont une des premières choses qui est importante de savoir, en fait, c'est qu'ils travaillent entre autres de l'artisanat, pour pouvoir vivre et pour pouvoir faire vivre leur famille. Je crois que c'est important de savoir que quand une personne est arrêtée, et si elle est le chef de famille, ça veut dire tout le soutien économique qui disparaît. Souvent, les familles de prisonniers politiques ou même les familles de détenus disparus, quand la personne a été arrêtée, se sont trouvées dans une situation économique catastrophique, en fait. Alors ça a donné que les prisonniers politiques, par exemple, s'organisent, font de l'artisanat tel que des arpilleras de laine. Ce sont des tableaux avec des motifs où ils collent de la laine. Ils font des colliers, des pendentifs. Ils font des cartes. Quoi, je veux dire, ils ont plusieurs formes d'artisanat qui vendent à l'extérieur, au Chili ou dans le monde, en fait.
Parce que justement, il y a une solidarité avec les prisonniers politiques à l'intérieur du pays, mais comme tu disais, ce qui est très important, c'est en fait la solidarité avec les prisonniers politiques à l'extérieur du pays, donc international.
Tout à fait. Il y a trois forces, si on peut dire, qui tournent autour des prisonniers politiques. Les prisonniers politiques qui donc s'organisent, plus parfois font des pressions, se forment en comment on appelle ça, groupe de prisonniers politiques. Et puis il y a les grèves de la faim qu'ils font. Je veux dire, il y a des prisonniers politiques qui sont actuellement depuis 80 en fait. Il y en a qui étaient depuis 80 en fait emprisonnés. Il y en a qui ont fait 15 grèves de la faim, quoi. C'est énorme quand on connaît les conséquences sur la santé d'une personne. Et l'autre forme sociale, c'est les organisations sociales des prisonniers politiques, ou les, c'est-à-dire les familles, les amis des prisonniers qui s'organisent au Chili, qui font des manifestations, qui essayent de faire pression sur le gouvernement chilien, qui essayent d'informer sur la situation des prisonniers politiques. Et la troisième force qui est sacrément importante, disons moi j'en suis convaincue, c'est la pression internationale. De la pression internationale, on peut faire beaucoup de choses, c'est-à-dire que en touchant les maires, en touchant des conseillers généraux, en touchant des députés, on arrive en fait à toucher les gouvernements de différents pays. Et on sait qu'actuellement, il n'y a plus aucun gouvernement qui est indépendant politiquement et économiquement. Donc, le gouvernement d'Halloween ne peut pas être indifférent à la pression d'un gouvernement, que ce soit le gouvernement suisse, si on arrivait à le faire bouger, que ce soit le gouvernement français, que le gouvernement allemand, le gouvernement anglais, nord-américain, n'importe. On sait que tous ces gens, ils sont intéressés par notre bulletin de vote, etc. Donc, je crois que c'est à reconnaître la force qu'on peut avoir. Les lettres à écrire aux prisonniers politiques, les lettres à écrire au gouvernement, et toute la force qu'on peut avoir, nous, pour faire pression d'un gouvernement sur un autre gouvernement. Je pense par exemple au niveau de la solidarité internationale, un travail qui a été excessivement important, qui a été réalisé dans le monde comme au Chili, c'est le travail d'Amnesty International. Et Amnesty a fait un travail pour obtenir de meilleures conditions de vie pour les prisonniers politiques, a pu obtenir la libération des prisonniers politiques. Moi, je tire le chapeau pour le travail qu'ils ont fait. La seule distinction de eux avec moi, c'est qu'ils font une distinction entre les prisonniers politiques de conscience et les prisonniers politiques de violence. Et moi, je rentre pas en matière là-dedans. Je sais pas de quel droit, en tant qu'Européen, on se permet de juger des personnes qui, sous une dictature, pour avoir eu un frère ou un père qui ont été détenus disparus, pour avoir eu un fils, deux fils, trois fils qui ont été assassinés, qui ont été dynamités, qui ont été criblés de balles, qui ont été brûlés vivants, qui ont été... On sait tout ce qui a été les violations des droits de l'homme sous le Chili. Je crois qu'on ne peut pas se permettre de juger des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, se sont manifestées contre la dictature. On sait aussi que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le préambule, il est dit, d'une certaine façon, que finalement, s'il y a une tyrannie, le peuple risque de se rebeller contre cette tyrannie. Donc il faut faire attention qu'il n'arrive pas une tyrannie. Mais s'il y a une tyrannie, ça veut donc dire que dans la déclaration, ils autorisent. Et dans la Déclaration universelle des droits des peuples, là c'est clairement dit dans un article que tout peuple a le droit d'une manière sociale, syndicale ou politique, de n'importe quelle manière, a le droit de se rebeller contre une dictature.
Tu nous as aussi parlé, disons, du nombre de disparus qu'il y a eu au Chili, comme en fait en Argentine. Est-ce que là aussi, il y a eu cette immense... Il y a eu une mobilisation telle qu'elle a été connue en Argentine, c'est-à-dire des familles, des maires, je parle des maires de la Plaza Mayor. Est-ce qu'il y a eu le même mouvement au Chili? Oui, le phénomène en fait des disparus est-elle aussi très important?
Ça, c'est le pouvoir que s'octroient des dictatures telles que la dictature de Pinochet, en fait. Donc, ils arrêtent les personnes. Et tout d'un coup, les font disparaître sans savoir s'ils les ont tués, exécutés, s'ils sont emprisonnés, s'ils sont vivants. Et il y a justement essentiellement, comme tu disais, des femmes qui se sont mobilisées, parce que c'est surtout des compagnes, des femmes, des filles, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui ont été arrêtés, qui ont disparu ensuite. Il y a, je crois, autour de 782 détenus disparus qui ont été recensés. Et on sait qu'on déduit qu'il doit y avoir 2500 détenus disparus sous la dictature de Pinochet. Comme on déduit qu'il doit y avoir eu 15 000 personnes qui ont été exécutées politiquement. Par rapport à ces familles de détenus disparus, ils ont fait des manifestations, ils ont dénoncé le four de Lonquien. On sait dernièrement qu'il y a eu un charnier qui a été découvert dans le nord du Chili, dans le désert. Et où il y a eu 30 cadavres qui ont été déterrés. Là, j'ai une amie qui me racontait en fait d'une chienne que je connais qui est en exil. Elle disait bon ben son mari a été arrêté, il a disparu, donc un détenu disparu. Elle disait mais je me souviens plus moi de ses habits. Je me souviens plus comment quand ils l'ont arrêté quels habits. Bon, c'est une forme de protection aussi et je crois qu'il y avait toute la douleur en fait de se trouver confronté. Enfin, mais malgré tout, avec cette douleur, cette souffrance, face à ce corps qui a été tant recherché.
Comment, face à tout, disons, le problème des détenus disparus, les prisonniers politiques, le gouvernement actuel d'Halloween, c'est quoi? C'est d'effacer tout, de gommer tout, et puis on recommence à zéro?
Alors, Halloween, dans le premier discours qu'il a fait après son investiture, il a dit qu'il fallait faire justice au Chili. Bon, fort bien, mais seulement il a poursuivi en disant « et pardonner ». Alors, si on pardonne, est-ce que ça veut dire qu'on permet réellement à la justice de s'effectuer, de faire justice? Et c'est vrai que, quasi en majorité, les démocrates chrétiens veulent pardonner et ne veulent pas se faire justice, ne veulent pas réellement ressasser tout ça en disant « il faut qu'on oublie, c'est terminé, la dictature est terminée, on tourne la page ». Ben non, on tourne pas la page. Pour une Carmen Gloria Quintana qui à 18 ans a été brûlée vivante par les militaires, elle saura en se voyant tous les jours dans la glace, elle saura qu'elle a été brûlée. Pour une mère qui a 3 de ses enfants qui ont été assassinés, elle saura qu'elle a vécu sous la dictature. Pour des enfants qui ont été torturés, ils sauront qu'ils ont vécu sous une dictature. Et je crois qu'il y a un minimum de justice à faire. Et il y a le grand risque, en fait, qu'une loi d'amnistie soit prononcée en échange de la liberté de certains prisonniers politiques.
Y a-t-il une opposition, disons, forte contre l'impunité, contre la politique, disons, d'impunité?
Ben, par exemple, en fait, j'ai appris que donc quand ce charnier a été découvert là ces derniers jours, il y a un grand choc actuellement dans la population chilienne hein, et que les gens se mobilisent un peu plus et veulent savoir. Bon, tous les gens qui sont mobilisés au niveau des droits de l'homme, ils le savaient, hein, mais les autres qui se sont tus par peur, sous silence ou parce qu'ils voulaient pas se mobiliser, ne comprenant pas ce que ça voulait dire de se mobiliser contre une dictature, je crois que eux malgré tout ont été choqués. Et il y a quand même une opposition des gens qui ne veulent pas de cette amnistie. C'est vrai qu'il y en a pour leur propre tranquillité, je crois que c'est ça en fait qu'il faut voir, qui veulent tout gommer. Il y a une partie des personnes qui veulent que justice soit faite, qui veulent qu'il y ait une reconstitution des faits, qui veulent que les personnes soient nommées, tous les militaires, tous les tensionnaires, et on en connaît en fait. Et ne pas permettre en fait que des personnes qui ont donné l'ordre, Ariane Ostar, qui un colonel qui en 73 a donné l'ordre de qui a fait le tour des camps de concentration et des prisons du nord du Chili juste après le coup d'État et qui a donné l'ordre d'utiliser en pointant les prisonniers 72 prisonniers politiques. Je veux dire, lui, il est tranquille dans son fauteuil, comme il a été tranquille pendant 16 ans. Et il va être encore tranquille sous un gouvernement qui se dit démocratique. Elle est où, la justice?
Le débat, il se fait dans les journaux, là-dessus, sur ce problème de gommer le passé ou bien de demander que justice soit faite, une réelle justice?
Pas trop. Il y a quand même une censure, c'est pas l'importance. On a parlé un petit peu de la sortie de certains prisonniers politiques. On parle un petit peu des détenus disparus, mais c'est pas ce que moi j'aurais espéré, ce que beaucoup de personnes auraient pu espérer. C'était de faire en fait un plus grand bruit autour de ça, une plus grande mobilisation. C'est vrai que la situation au Chili, elle est loin d'être sûre. Les gens ont peur. Et beaucoup de personnes, en fait, se disent, on va donner beaucoup de concessions, on va donner certaines concessions aux militaires, à Pinochet, on va admettre beaucoup de choses dans leurs exigences, pour être sûr qu'ils ne reviennent pas sur la place politique avec un coup d'État, c'est-à-dire répression, assassinat, quoi, je veux dire, ce qu'est un coup d'État. Et Pinochet, de toute façon, il l'avait dit, donc avant de passer le pouvoir, si on touche à un seul de mes hommes, c'est-à-dire la CNI, les carabiniers, etc., si on touche à un seul de mes hommes, je reviens sur la place politique. C'est-à-dire, c'est un chantage pur et simple. Et la démocratie chrétienne, entre autres, et beaucoup d'autres personnes, jouent ce jeu pour espérer qu'ils ne reviennent pas. De toute façon, les militaires ont le pouvoir. Donc, Pinochet reste commandant en chef des forces armées. Et ils vont revenir sur le terrain à partir du moment où ils décideront, sauf s'il y a quelque chose qui est fait contre eux.
Non seulement tu t'es penché, disons, sur le problème des prisonniers politiques, sur le problème des disparus au Chili, mais tu as aussi travaillé avec la population la plus défavorisée, notamment les femmes et puis les jeunes adolescentes. Tu peux nous parler un peu de ces actions que tu as suivies?
Sans problème. C'est vrai que je fais partie ici d'une association qui s'appelle Solidarité Enfants Chili et qui soutient deux projets. Un projet qui est un atelier de femmes, c'est-à-dire des femmes, des populations, des quartiers populaires, où elles font une réunion une fois par semaine. C'est à petite échelle, c'est pas excessivement connu. Mais moi qui ai participé là pendant ces 7 mois aussi, chaque fois, quasiment chaque fois, disons, sauf quand il y avait une manifestation que je voulais être présente pour photographier. Et là, en fait, j'ai suivi tout un processus. Ces femmes qui étaient des femmes soumises, des femmes qui acceptaient de se faire rouer de coups, de se faire tabasser parfois par un mari ou alcoolique ou simplement parce que elles avaient une mésestime d'elles-mêmes. Mais j'ai vu des femmes qui ont grandi, qui sont épanouies, qui ont appris à s'exprimer, qui ont appris à défendre une opinion. Et ça, c'est super. Et le temps était divisé en 3 parties. Première partie, qui est ce qu'on appelle l'éducation populaire, où elles avaient choisi des thèmes en début d'année et où elles ont travaillé sur ces thèmes. Et où, en fait, chacune, en travaillant sur un thème, a appris aussi à chercher des documents, à défendre son opinion face aux autres et à présenter sa recherche. Il y a eu un autre temps où, en fait, elles ont appris des techniques d'artisanat, ce qui leur permet de s'inclure, si elles le désirent, dans le marché chilien. Bon, difficilement.
Parce que le gros problème, c'est aussi ça. En fait, les femmes dans les poblaciones, ce sont des femmes qui n'ont pas de revenus ou qui travaillent dans des conditions très précaires.
Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'il faut savoir qu'il y a un taux de chômage au Chili qui est excessivement important. Dans certaines populations, il y a 80% de la population active qui est chômeur. C'est-à-dire, il n'y a pas d'allocation chômage, hein, c'est-à-dire ne pas avoir de rentrée d'argent. Et ces femmes, souvent en population, ou alors elles sont hyper exploitées dans leur travail, ou elles n'ont pas de travail en fait. Il y a aussi la contraception est très difficile parce que déjà quand on n'a pas la possibilité d'acheter du pain, on n'a pas la possibilité d'acheter un moyen contraceptif en fait. Et ces femmes ont aussi beaucoup d'enfants, donc je veux dire tout le problème de comment nourrir les enfants, s'occuper des enfants, etc. Et là, effectivement, par l'atelier, bon, il y a différentes techniques qu'elles apprennent, mais surtout, elles ont la possibilité de faire des pulls ou des gilets avec la laine de Chiloé, du sud du Chili. Et bon, moi, je les trouve très beaux. Il y a des couleurs très, très, très chaudes. Et c'est vendu tant au Chili qu'ici, ça leur permet un soutien économique. C'est pas un atelier productif et c'est pas réellement, elles n'ont pas réellement un salaire pour pouvoir vivre. Elles ont un apport économique en fait par le fruit de leur travail.
Et puis à côté donc des femmes, t'as aussi, vous avez aussi fait un projet en fait avec les jeunes filles, les adolescentes qui viennent aussi des poblaciones, qui ont donc pas de perspective professionnelle et qui beaucoup en fait gagnent leur vie en se prostituant.
Tout à fait. Alors là, c'est un projet qui a été qui est mis en place en fait par des professionnels. Ce sont des professionnels du social qui travaillent. C'est un projet d'alternative à la prostitution infantile. Donc, il est soutenu par nous, c'est-à-dire Solidarité Enfants Chili, et par Terre des Hommes Genève. C'est un projet qui donne la possibilité à des adolescentes en haut risque de prostitution et à des adolescentes qui se prostituent de trouver notre solution, c'est-à-dire qu'elles peuvent arriver à se former. À se former d'abord, elles apprennent à coudre, ensuite elles apprennent à se former sur des machines industrielles. Et ensuite, à la suite de cette formation-là, elles ont un contrat de travail en usine. C'est pas la gloire, elles sont exploitées, mais je pense qu'il y a un échelon dans le travail, en fait. Le travail dans la prostitution, parce que c'est un travail, malgré tout, elles en vivent de ça. Elles font vivre, elles donnent à manger par le travail de vendre leur corps, en fait, à leurs enfants, aux parents, aux frères et sœurs. Et ensuite, bon, bah, c'est vrai qu'elles ont ce travail en usine où elles sont en premier lieu, elles sont contentes, quoi. Je crois que c'est une réalité. Elles sont considérées parce qu'elles sont dans le milieu du travail.
Femmes, Radio Zone 93.8 MHz. Aujourd'hui, dans notre émission Cause Toujours, Tu m'intéresses, Isabelle Mermineau qui nous parle du Chili.
Donc, le résultat de ton séjour au Chili est en contact avec les prisonniers politiques et puis leurs familles. C'est un montage de visuel que tu vas montrer ici en Suisse et que tu as montré déjà dans d'autres pays. Alors, parle-nous de ce montage.
Alors, tout volontiers, parce que c'est quelque chose d'important pour moi. C'est un montage qui est en deux parties. La première partie, donc, sur les prisonniers politiques. Et la seconde partie, sur le problème de l'impunité de la loi d'amnistie. Dans la première partie, c'est le montage est constitué de des témoignages de prisonniers politiques. D'ex-prisonniers que j'ai réalisés à Santiago. Et des témoignages que les prisonniers de la Cárcel Pública et de la Cárcel de Santo Domingo, c'est-à-dire de la prison des hommes et la prison des femmes à Santiago, ont réalisé. Donc ils ont fait l'enregistrement à l'intérieur, ce qui veut dire problème de répression, ce qui veut dire problème de sécurité pour eux. Mais ils l'ont fait parce que je crois qu'ils ont aussi une force qui est importante aussi à dire, à raconter ici. Les diapositives sont constituées des photos que j'ai prises lors des manifestations, c'est-à-dire manifestations impliquent répression. Et les autres photos sont les familles, sont les photos que les prisonniers eux-mêmes ont prises à l'intérieur de la prison.
C'est-à-dire sur leur vie quotidienne, sur la manière dont ils vivent, dont ils s'organisent.
Tout à fait. Par exemple, quand ils sont en train d'installer justement les tentes dans le patio, quand ils sont dans leur cellule, quand ils sont à la cuisine, sur leur vie quotidienne en fait. Donc le but du montage, c'était de montrer d'autres facettes du prisonnier politique. On a toujours entendu, on parlait du terroriste, ça c'était la dictature qui parlait. On a entendu parler du prisonnier politique, El luchador con compromiso político, c'est-à-dire le lutteur, la traduction, on n'arrive pas à trouver le mot ici. C'est le lutteur avec un engagement politique, social, et on n'a jamais montré la troisième facette de l'être humain, c'est-à-dire ce prisonnier politique qui est père, qui voit ses enfants lors de visites, cette prisonnière qui a été... Lorsqu'elle a été arrêtée, elle était enceinte, elle a été torturée quand elle était enceinte, elle a couché à la prison, elle a élevé actuellement, il y a encore une prisonnière qui a son enfant avec elle. Donc ça, c'est des réalités en fait. C'est un petit peu, ils ont raconté qu'est-ce qu'ils vivaient lors des visites, comment est-ce qu'ils imaginent la liberté. C'est-à-dire, c'est la nature, c'est fou, l'importance. Vivre toujours dans du béton et l'importance d'arbres, l'importance de la nature, l'importance de le contact avec les gens. Et donc c'est tout ce que tout le personnage, tout l'être humain qui est tellement important à l'intérieur des prisonniers politiques.
Donc ça, c'est la première partie du montage. Et la deuxième partie, tu montres donc l'aspect de l'impunité, la politique d'amnistie proclamée par le gouvernement. Donc l'amnistie, c'est-à-dire des tortionnaires.
Tout à fait. Disons, actuellement, il y a effectivement la possibilité que les tortionnaires, les militaires soient amnistiés. C'est une rumeur actuellement, c'est pas encore fait, en tout cas pas que je sache dans les dernières informations qui sont arrivées ici, et ça se monnaie un peu sous la table en fait, hein, contre la liberté de certains prisonniers politiques, ce qui s'est passé en Argentine avec la loi del punto final, etc. Hein. Et c'est dans le montage, ce qui sort, c'est une toute petite liste, elle est petite hein, quand on sait tout ce qui s'est passé, une toute petite liste des violations des droits de l'homme pendant 16 ans de dictature au Chili.
Et ce montage, quand est-ce que tu le montes? Donne-nous les dates, donne-nous les lieux où on peut le voir.
Alors, d'abord, il sera présenté à Genève le jeudi 21 juin à 8h, 6 rue du Temple. Pour ceux qui connaissent, à côté de la salle du Faubourg, à côté de la maison de quartier de Saint-Gervais. Donc, 6 rue du Temple, 3e étage, dans la salle de l'Union des syndicats suisses. Et il sera présenté aussi le vendredi 22, donc autant le jeudi que le vendredi, ça sera à 20h. Et le vendredi 22 à Lausanne, à la Casa Latina, à 41 rue de la Tour à Lausanne, aussi à 8h.
Ondes Femmes, Radio Zone, 93.8 MHz. C'était Isabelle Mermineau qui nous parlait de la situation des prisonniers politiques au Chili. Et maintenant, nous allons écouter de la musique du Chili. Isabelle Parra qui va nous chanter des chansons et des compositions de sa mère, Violeta Parra.
Medio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponde te sojo un blanco manzano. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión y para saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Horas del día, la noche me puebla todas mis orillas. Así voy rodando como el ave herida, me levanto, caigo, me paro enseguida. Así voy rodando como el ave herida, el viento me enreda en sus cuerdas frías. Con fuerza maligna, si quiere quedarse mi cuerpo allá arriba, se llenan mis huesos de llamas altivas, el viento me viste, me baja enseguida. Se llenan mis huesos de llamas altivas, el viento me cubre su larga camisa. Cercano brisa, las nubes me entregan su llanto de arriba, con la luz y el viento me alarga en la esquina. Las nubes me entregan su llanto de arriba, con la luz y el viento me paro enseguida.
Cielo, su fondo estrellado. y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Vous êtes à l'écoute Onde Femme Radio Zone 93.8 MHz. Vous pouvez nous écouter tous les mercredis soirs. Ça commence à 17h avec notre émission Remue Ménage, suivie à 18h30 par l'émission Radio Pleine Lune. À partir de 20h, vous pouvez continuer à nous écouter avec des émissions où nous donnons la parole aux femmes, dans nos émissions Cause Toujours, Tu m'intéresses, où nous vous faisons découvrir des voix de femmes, de la musique de femmes. Onde Femme, Radio Zone 93.8 MHz a besoin de votre soutien financier pour continuer à vous préparer des belles émissions. Comment nous soutenir? C'est tout simple, vous nous téléphonez au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse et vous nous commandez une carte d'auditrice qui coûte 100 francs français ou 30 francs suisses. Onde Femme, Radio Zone 93.8 MHz, restez à l'écoute, nous allons écouter de la musique, Esther Lamandier. Esther Lamandier nous chantait « Dame, votre doux visage » de Guillaume de Machaut, qui était à la fois poète, musicien, chroniqueur et chanoine. Il a vécu entre 1300 et 1305. Esther Lamandier va maintenant nous chanter des chants de troubadours du XIIe et XIIIe siècle.
Thank you.
De femmes sur Radio Zoo 93.8 MHz. Restez à l'écoute. La suite de nos programmes dans un instant.
Je t'en donne un peu de plus.